Bonjour, vous êtes bien sur Radio Saint-Ferréol 94.2. Voici un épisode du podcast Un déjeuner chez Bernard qui parle du nucléaire et de son monde. Comme en Drôme, nous sommes proches des installations de Cruas-Metz en Ardèche et Tricastin dans la Drôme, il nous semblait important d'aborder ces questions du nucléaire à l'antenne. Vous retrouverez un épisode tous les 4e mercredi du mois à midi. Le reste des épisodes se trouve en ligne sur les plateformes de podcast. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus dans les détails techniques de CIGEO, le projet d'enfouissement géologique profond de beaucoup de déchets nucléaires français. Et nous allons en particulier commencer à nous intéresser à la DAC, la demande d'autorisation de construire, qui est une des étapes administratives sur le chemin de la réalisation, ou non, de CIGEO. Cette DAC de 41 documents et 12 000 pages est assez indigeste, je vous l'avoue. Heureusement, Bernard Laponche a le courage de s'y plonger. Et Global Chance, une association indépendante sur les questions énergétiques, a produit des rapports sur cette DAC, et en particulier, comme nous allons l'écouter aujourd'hui, sur l'installation nucléaire de surface. Il y aura deux pauses musicales dans l'épisode, une avec une musique de la BO de Brazil, le film de Terry Gilliam, parce qu'il y a des moments, moi j'ai l'impression d'y être quand on me parle de ce projet. Et l'autre pause musicale sera de Celeda, The Underground, parce que le projet de CIGEO consiste simplement à construire l'équivalent du métro de Paris en galerie souterraine à 500 mètres de profondeur. Bonne écoute. On va essayer avec Bernard de montrer le côté démentiel, disproportionné, voire même farfelu de ce projet. Et ce qui est assez compliqué, déjà, parce que souvent quand on vient voir l'ANDRA, l'agence nationale qui gère ce projet, et qu'on vient dire « oui, il y a quand même un problème à cet endroit-là », ils nous disent « oui, oui, on a réfléchi, on réglera le problème, donc il n'y a pas de souci. Circuler, il n'y a rien à voir. » Et donc c'est assez compliqué de venir apporter une critique de ce projet sans que cette critique soit bottée en touche. Et donc ce qu'on va essayer de faire dans cette série, c'est de montrer des côtés qui, indéniablement, pose problème et devrait poser problème à la société française si cela faisait partie d'un débat démocratique sur ce sujet. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est l'installation de surface, l'installation nucléaire de surface. Et d'abord, qu'est-ce que tu penses de ma présentation, Bernard ? Est-ce que ça te convient, ce que je dis ?
Oui, il y a quelques expressions peut-être un peu osées. La première chose à dire sur cette histoire de projet CIGEO, c'est qu'il y a eu déjà la déclaration d'utilité publique qui a donné lieu à un dossier déjà extrêmement complet et très difficile à lire. Mais on en est maintenant à la demande d'autorisation de création, ce qu'on appelle la DAC. Et ce qui est soumis, on peut dire, au public, et dans ce public, il peut y avoir des experts, il peut y avoir des citoyens normaux, disons, qui ne sont pas forcément connaisseurs des détails techniques de cette affaire. Et ce dossier est particulièrement indigeste, puisqu'il est constitué de 12 000 pages, qui sont divisés en 41 documents. Et donc, lorsque on s'intéresse à l'ensemble, il faut prendre connaissance des 41 documents. Et si on s'intéresse à un sujet particulier, par exemple, comme aujourd'hui l'installation nucléaire de surface, on est bien embêté parce que on en parle dans ce rapport, pas dans tous les 41 documents, mais dans pas mal d'entre eux. Et donc, on doit passer en revue ces différents documents et on se dit, ah, mais tiens, là apparaît l'installation de surface. Alors, en quoi elle consiste ? Donc, dans la pièce 0, on en parle, mais pas plus. on la nomme. Et puis dans la pièce 2, on n'en parle pas. Et puis la pièce 5, on en parle un peu plus, mais sans beaucoup de détails. Et puis comme ça, de pièce en pièce, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'endroits où on parle de l'installation nucléaire de surface, mais c'est jamais complet. Et c'est souvent des paragraphes qui sont copiés-collés, mais pas tout à fait. Donc la lecture du dossier est à peu près impossible. Alors on imagine, pour le public, je dirais le public normal, d'aller consulter à la mairie un document de 12 000 pages. Et donc tout ce qu'on peut appeler la consultation du public, finalement, s'avère quelque chose d'impossible et d'une certaine façon méprisant.
Oui, c'est-à-dire, on voudrait que les gens ne s'intéressent pas à ce sujet, qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
Oui, je ne sais pas si quelqu'un a tout lu. Je pense d'ailleurs que même des gens de l'ANDRA qui présentent ce projet n'ont pas tout lu, parce qu'ils se seraient aperçus que les mêmes paragraphes reviennent à plusieurs endroits, quelquefois modifiés. Donc on est obligé de se dire, mais c'est bizarre, tel paragraphe dans telle pièce était parfaitement clair et d'une certaine façon satisfaisant par rapport aux questions qu'on peut se poser. Et puis à un autre endroit, ce n'est pas la même chose. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il y a des choix qui sont faits qui ne correspondent pas. Donc ce dossier est de mauvaise qualité et on hésite entre une certaine incompétence, parce qu'on pourrait certainement présenter le projet de façon mieux ordonnée et plus succincte, ou bien une intention de noyer les gens sous des documents absolument presque impossibles à exploiter. Et je dois dire qu'il y a très peu de gens qui se donnent la peine de faire ce travail, parce que c'est un travail de romain, on pourrait dire. Voilà.
Bon, moi, je vote pour la solution 2, c'est qu'on ne veut pas qu'on lise ce dossier, parce que c'est ce qu'on fait aussi sur le... Enfin, c'est ce que EDF fait sur l'EPR. Enfin, j'ai l'impression que c'est une pratique générale de l'industrie de nous noyer sous 46 000 pages ici, 12 000 pages là-bas. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est volontaire, mais...
Bah, écoute...
Voilà. C'est mon point de vue.
Si tu gardes ton point de vue, mais je serai assez proche de le partager. Mais je reste dans ma spécialité d'expert scientifique et j'essaye de ne pas porter trop de jugement de valeur sur le comportement des gens.
Tu as bien raison. Venons-en justement à notre analyse. Alors, technique de ce...
Parce que la plupart des gens, et moi-même il y a un certain temps, ont l'impression qu'il y a des déchets, il y a des déchets radioactifs, de haute activité, moyenne activité à vie longue, et que ces déchets sont mis sous une forme bien protégée, transportable, que les producteurs de déchets, ces déchets proviennent en grande partie de l'usine de La Hague, mais ce sont des déchets produits par différents producteurs, également le commissariat à l'énergie atomique et surtout EDF, hein, puisque la plupart de ces déchets les plus importants viennent des combustibles irradiés extraits des réacteurs des centrales d'EDF. Et donc on se dit, ben voilà, les gens qui ont ces déchets les mettent dans des conditions dans des conteneurs tout à fait adaptés à leur enfouissement. Et ils sont livrés au site de Bure, n'est-ce pas, au site de CIGEO, lorsqu'ils seraient construits, et on les enfouit. En fait, il y a une étape très importante qui est justement ce qu'on appelle l'installation nucléaire de surface, c'est-à-dire une usine de taille assez imposante, à peu près une centaine de mètres de long. Par exemple, ces dimensions ne figurent pas dans le rapport. C'est un peu embêtant. Mais bon, on se rend compte que c'est une usine importante. Et dans cette usine arrivent les déchets dans des conteneurs. Et ces conteneurs, l'ANDRA vérifie qu'ils n'ont pas de contamination de surface, etc. Donc il y a un peu premier contrôle. Et après, ils rentrent immédiatement dans cette usine, qui fait un travail considérable, c'est-à-dire on prend dans la plupart des cas, des déchets qui arrivent dans certains types de conteneurs, dans l'usine en question, on les introduit et on les change, en gros, la plupart d'entre eux, on les change de conteneur. C'est-à-dire on les sort du conteneur de livraison, les conteneurs de voyage, on pourrait dire, et on les met dans de nouveaux conteneurs qui sont faits, adaptés au fait qu'on va les descendre au fond. C'est-à-dire que l'usine a des tas d'étapes dans lesquelles on fait ces transformations. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que ces différentes étapes sont des étapes de caractère mécanique, c'est-à-dire on prend le premier conteneur, on le rentre dans l'usine, à partir de là, comme il va falloir changer de conteneur, à un moment donné, donc on déplace ces conteneurs, on les ouvre, on en sort le déchet tel qu'il a été au départ, et on le change de conteneur. Et on le met dans un nouveau conteneur, et donc on a enlevé le couvercle, on a sorti le déchet, qui lui-même a son propre conteneur d'origine, mais qui est quand même radioactif et chaud, en particulier dans le cas des colis à haute activité, mais aussi pour les colis de moyenne activité. On les remet dans l'autre conteneur et on remet un nouveau couvercle, que soit qui est vissé, soit qui est scellé. Et ce sont des opérations d'une extrême complexité. Alors on se dit, bon, on fait tout ça. Et comment fait-on tout ça? Eh bien, comme c'est des produits radioactifs, il n'y a pas d'intervention humaine dans ces opérations.
Vous êtes bien sur 94.2 Radio Saint-Ferréol et vous écoutez Un déjeuner chez Bernard. Thank you. Vous êtes bien sur 94.2 Radio Saint-Ferréol et vous écoutez Un déjeuner chez Bernard. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est que l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il y avait énormément de types de colis qui pouvaient arriver et que tous ces types de colis, ah ben, y en a qui vont suivre telle ligne de production, qui vont être retournées à tel endroit, et puis on va à la machin, et puis alors l'autre type de colis, ah ben non, ça va être autre chose, on va le mettre dans un autre colis d'enfouissement, et donc ça va être une autre chaîne. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir un truc qui est incroyablement complexe.
Justement, c'est cette complexité qui fait, par exemple, si on compare avec d'autres situations à l'étranger, il y a essentiellement un seul type de déchet, c'est le combustible irradié. Donc c'est beaucoup plus commode, c'est-à-dire que on a un type de déchets et donc on peut faire l'enfouissement beaucoup plus facilement. Tandis que là, en particulier du fait du retraitement, on a des déchets haute activité, vie longue, il n'y a pas beaucoup de catégories. Et l'essentiel, ce sont les déchets vitrifiés qui viennent de l'usine de La Hague. Mais il y a quand même quelques types, peut-être quatre ou quelque chose comme ça. Tandis que pour les déchets de moyenne activité à vie longue, il y a beaucoup plus de types de déchets, donc de types de colis différents. Et donc les méthodes de leur reconditionnement ou non, d'ailleurs, quelquefois le colis tel qu'il est convenable, on l'accepte en tant que tel. D'autres fois, on le transforme, on change les conteneurs dans l'installation de surface. Donc c'est extrêmement compliqué. Et comme justement ces produits sont radioactifs, l'ensemble, comme je l'ai dit, est automatisé et suivi par ce qu'ils appellent la salle de conduite centralisée, qui est effectivement indiquée dans les rapports, pas très développée, c'est-à-dire on explique que à partir de cette salle de commande, avec aussi d'ailleurs certaines salles secondaires, qui sont en liaison avec la salle principale, centralisée, à partir de ces salles de contrôle, sur des écrans, il y a toute une équipe qui est là et qui doit suivre ce qui se passe, et que s'il y a quelque chose, à ce moment-là, il faut, s'il y a par exemple un colis qui s'est coincé, enfin, pas forcément quelque chose de très complexe, un colis qui s'est coincé, donc bon, ben, ça, on arrête la chaîne, comme par hasard, comme sur les cars à la mer. Ça se produit à 3h du matin. Donc, et alors, on voit bien dans le rapport, on parle de ce que doit faire le chef de car. Alors, le chef de car, il doit faire ceci, il doit faire cela, on comprend, il doit suivre tout ce qui se passe et être capable, par exemple, d'arrêter l'opération et après d'organiser qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça veut dire que 24h sur 24, il faut d'une part une équipe qui suit ce qui se passe. Et on comprend bien que ce n'était pas seulement le chef de car, mais toute une équipe qui est de car, en fait, comme sur un bateau, et qui a des écrans, et qui suit sur les écrans tout ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'écrans, puisque forcément, il faut suivre des opérations, puisqu'on voit qu'elles sont très complexes, et que par conséquent, il y a une surveillance permanente. Mais il n'y a aucune explication sur combien il y a de personnes. Parce qu'organiser des cars, les équipes présentes dans la salle de conduite, combien il y a de personnes, aucune idée. Comment s'est organisée la relation entre l'équipe principale et les équipes secondaires. Et donc, il y a tout un personnel, qui est en fait le personnel d'exploitation du centre, qui est devant des écrans. Et forcément, comme ce sont des opérations mécaniques, essentiellement, on soulève un colis, on le déplace, on le met un peu plus bas, on le redéplace, on enlève son couvercle, et surtout, on fait des opérations de soudage ou de vissage extrêmement complexes, tout ça automatisé, des robots, pas d'intervention humaine. L'intervention humaine consiste à surveiller que tout se passe bien, comme par hasard dans le rapport « Tout se passe bien », on sait très bien que sur des opérations mécanique, bon, ben, y a des choses qui peuvent se coincer, il y a un boulon qui peut ne pas avoir été très bien vissé, voire Boeing, et par conséquent, il faut arrêter, il faut avoir tout de suite des équipes de maintenance qui peuvent intervenir, qui peuvent intervenir en scaphandre parce que le milieu est radioactif. Et donc toute cette activité de l'installation de surface, qui s'appelle EPA, puisque elle est prévue pour la première phase de stockage des déchets, et en particulier ce qu'on appelle la phase industrielle pilote, c'est-à-dire que dans cette phase industrielle pilote, on doit faire des essais de fonctionnement de l'ensemble du système. Et moi, je suis persuadé que les essais de l'usine, de cette usine EP1, c'est-à-dire la première usine, vont être extrêmement complexes. Alors, ce qui est un autre point qui est intéressant, c'est que dans cette première phase, et en particulier ce qu'on appelle la phase industrielle pilote, finalement, on teste des colis MAVL, plusieurs types de colis d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, et puis on teste un déchet, ce qu'on appelle HA0, c'est-à-dire des déchets de haute activité, mais en fait de faible radioactivité, parce que c'est ce qu'on a sous la main et c'est ça qui arrange l'endroit aussi. Alors que les déchets HA vraiment très radioactifs qui sont issus du retraitement des combustibles des réacteurs à eau et uranium enrichi ne seraient commencés à être stockés qu'au-delà de 2080. Comme les dates de tout ça se déplacent, c'est probablement très au-delà de 2080. Et à ce moment-là, on cite qu'il y aurait une usine EP2, mais elle est simplement citée. On ne sait pas en quoi elle consiste. Ce qu'on nous explique, c'est qu'elle ressemble beaucoup à l'usine EP1, mais en plus simple. Donc, on s'aperçoit que, en fait, l'autorisation qui serait donnée après l'instruction de la demande d'autorisation de construction, en réalité, ne porte que sur ce qu'on appelle la première phase, c'est-à-dire la phase industrielle pilote, où on va tester, on va faire des essais, en particulier de récupération des déchets, c'est-à-dire on les met au fond, et puis on les récupère pour s'assurer de la fameuse récupérabilité et réversibilité du stockage, ce qui est un autre sujet. Mais tout ça, on s'aperçoit que tout ça, en fait, est envoyé plus tard et que l'autorisation de mise en service va porter pratiquement uniquement sur cette fameuse phase industrielle pilote.
Alors, qui est censée durer combien de temps? Parce qu'en fait, là, tu as parlé de 2080. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette usine nucléaire de surface qui va donc gérer tous les colis et les reconditionner pour qu'ils soient stockables tout au fond, cette usine mécanisée, robotisée, sous surveillance humaine, va fonctionner pendant 150 ans. Et dans les rapports, on dit que ça va marcher sans aucun problème pendant 150 ans. Et donc ça, je pense qu'on pourrait aller sur n'importe quelle chaîne de montage chez Renault ou chez Peugeot où il y a des robots pour savoir qu'il y a des problèmes tous les jours et que ces problèmes ne sont pas avec des colis radioactifs. Donc c'est beaucoup plus simple de gérer ce genre de problème.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on prétend faire une pratique, je dirais, presque ordinaire, en prenant comme modèle qu'est-ce qui se fait pour les bagnoles ou tout ça. Mais il y a deux différences considérables. La première, c'est que on manipule des produits radioactifs. Ce n'est pas très comparable à des bagnoles. Et d'autre part, on prétend faire ça, effectivement, sur plus d'une centaine d'années, mettons 150 ans. Alors, ce qui est dit quand même dans le dossier, c'est de dire, ah ben oui, on va faire cette phase, cette première phase pour tout vérifier, mais au fur et à mesure, on peut modifier des choses. S'il y a des choses qui ne marchent pas, ben on les réparera, etc. Ça veut dire qu'en fait, l'autorisation, de fait, c'est pour cette première phase et que d'autres autorisations viendront au fur et à mesure du déroulement des opérations. Et ce qui n'est pas prévisible, mais quand même gros comme une maison, c'est le fait qu'à un moment donné, on s'apercevra que ça ne colle pas. Moi, je suis persuadé. Je suis persuadé que cette première phase, d'abord, va être beaucoup plus longue que prévu parce qu'on ne va pas seulement tester le fait qu'on peut récupérer des déchets qu'on aurait mis au fond dans d'ailleurs une galerie et quelques alvéoles. Tu vois, la première expérimentation, le système en surface et en descente il est complet, parce qu'il faut pouvoir descendre effectivement des déchets, mais l'installation du fond est très réduite. C'est-à-dire il y a une galerie pour les petits HA0, et puis il y a quelques alvéoles pour les MAVL. Donc c'est un truc en réduction. Mais déjà, donc cet aspect récupérer les colis qu'on en a mis au fond, c'est une partie, effectivement, des vérifications qu'on doit faire dans la phase 1. Mais surtout, pour moi, c'est le fonctionnement de l'installation de surface, de la descenderie et du stockage lui-même. Et que là-dedans, le fonctionnement de l'installation surface, pour moi, est une partie mais fondamentale, qui probablement va durer beaucoup plus que ce qu'on pense, parce qu'il faudra tester, justement, qu'il y a un problème. Parce qu'on considère qu'il n'y a pas de problème, parce qu'on fait ça pendant un temps assez bref, et on peut espérer, on peut penser que ça puisse fonctionner. Oui. Mais donc, il faut imaginer, bah, tiens, à ce moment-là, par exemple, quand on rebouche les conteneurs, il faut bien se mettre dans cette situation-là, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et de dire qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Et pas se dire, bah, ça fonctionne. Donc je pense que cette première phase de test, non pas seulement la récupérabilité des déchets, mais du fonctionnement de l'installation de surface, va durer très longtemps.
Ah bah oui, c'est à peu près sûr. Vous êtes bien sur 94.2 Radio Saint-Ferréol et vous écoutez Un déjeuner chez Bernard.
And can feel it all around the underground. Now let me see you work.
Que comme ça va être un endroit radioactif puisqu'on sort les colis de leur container, j'imagine que ces radiations vont avoir un effet sur les robots. Enfin, ça, j'imagine que c'est. Enfin, on a déjà vu que quand on essaie à Fukushima d'envoyer un robot pour filmer Welcorium, tous les robots finissent par s'éteindre parce que c'est tellement radioactif. Non, c'est bête ce que je dis là.
Non, il ne faut pas exagérer. La radioactivité est beaucoup plus faible. Pourquoi ? Parce que les déchets. Ils sont déjà dans des conteneurs eux-mêmes.
Oui, ils sont vitrifiés.
Donc, c'est les déchets vitrifiés ou même les autres, ils sont déjà dans des paquets. Alors, le paquet est radioactif, mais absolument pas comparable avec ce qu'on peut trouver dans un cœur qui a fondu. Okay. Donc, il faut raison garder.
Bien sûr. Il y a là pour ça.
La radioactivité est présente et c'est pour ça que tout est fait sans intervention humaine.
Ouais.
C'est qui rend la chose compliquée, mais ce n'est pas des quantités de radioactivité comparables avec...
Mais tu ne penses pas que ça a un effet sur les outils mécaniques, sur les robots, sur les processeurs, sur...
On ne sait pas ça.
Non, je pense que ce n'est même c'est pas la peine d'aller chercher ça.
Okay.
Le problème, c'est que c'est des opérations mécaniques.
Oui,
et les opérations mécaniques, radioactivité ou pas... Ben, ça se coince. Par exemple, une opération, on élève le combustible, le conteneur. Bon, on l'élève. À ce moment-là, on l'élève d'une hauteur qui est telle que normalement, même si ça tombe, ça ne va pas poser de problème. Donc, tu te dis, si ça tombe, est-ce que ça tombe vertical, auquel cas tout va bien. Mais encore, est-ce que tout va bien? Mais non, ce n'était pas prévu. Mais si ça tombe oblique, par exemple, ça veut dire on arrête, il faut le mettre en bonne position.
Mm-hmm.
Donc, toutes ces opérations mécaniques, on ne peut pas considérer que tout ça va marcher du premier coup et que le deuxième coup, ça ne va pas marcher. Donc, il faut simuler le fait que ça ne marche pas et voir dans ce cas-là comment ça se passe. Même si le déchet est peu radioactif.
Est-ce qu'on sait combien de déchets il y aura en simultané dans cette usine? Parce qu'à chaque fois, il y a des colis qui arrivent, on les dévisse, on les déplace, et puis si c'est d'autres colis, ils sont sur une autre chaîne. Est-ce qu'on sait un peu, au total, combien il va y avoir de déchets en même temps dans cette usine nucléaire de surface?
C'est une question que je pose et je n'ai pas de réponse.
Okay.
Justement, c'est ça qui est important dans ce rapport de 12 000 pages. C'est que dans 12 000 pages, on devrait trouver la réponse à cette question.
Oui.
Elle n'y est pas.
Ouais.
Par exemple, les dimensions de tout ça n'y sont pas.
Ouais, les dimensions de l'usine, tu veux dire. On ne sait pas si c'est une usine qui fait 100 mètres ou 150 mètres de long.
Okay. C'est probablement de cet ordre. Et il y a pas mal de passages dans lesquels on t'explique des trucs très intéressants, mais comme par hasard, les figures... Et même certains paragraphes sont caviardés.
Ils sont grisés, quoi.
C'est public. Donc ça disparaît. Donc il y a un paragraphe qui commence, puis tout d'un coup, c'est grisé, on ne peut pas savoir. Après, on t'annonce que ce truc est très bien expliqué sur la figure, je ne sais pas combien, elle est blanche. Et donc tu te dis, secret industriel, ok, mais c'est un dossier qui est public. Donc il y a des passages. Très intéressant, je le signale dans le rapport. Alors, on trouve les mêmes choses sur les dossiers EDF, mais ce n'est pas une raison.
Non, malheureusement, ça n'est pas une raison. Alors, c'est vrai que moi, quand j'ai lu le rapport, je me suis dit que c'était compliqué, d'essayer de prévoir tous les cas. Parce qu'en fait, c'est impossible de réfléchir à si le colis il glisse à tel endroit, ou s'il fait ci, s'il fait ça. Enfin, je pense que c'est impossible de parcourir l'ensemble... des cas qui pose problème. Mais là, j'ai l'impression que c'est même pas qu'on en regarde 5 et qu'on se dit, bon, ça, c'est quand même, c'est là-dessus que se concentrent nos études de risque. C'est que là, en fait, quand on lit le rapport, tout marche toujours bien. Il ne va y avoir aucun problème pendant 150 ans, 24 heures sur 24.
Non, non, ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des études d'accidents. Il y a un gros travail sur la sûreté nucléaire de cette installation. Mais très souvent, on étudie un cas. On dit par exemple, là, il peut y avoir un déclenchement d'incendie. Mais ça va bien parce que la ventilation marche. C'est-à-dire que les accidents possibles sont étudiés un par un. C'est-à-dire, il y a un incendie à tel endroit, ou bien il y a la chute d'un colis à tel endroit. Mais ce que l'on sait dans la sûreté nucléaire, c'est que lorsqu'il y a un accident grave, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Et ça, c'est vrai que c'est difficile à étudier, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit un paragraphe en disant « là, il y a une possibilité de déclenchement d'un incendie, mais ça s'arrête là parce que la ventilation marche », on se dit « mais oui, d'accord, on peut admettre en général que la ventilation marche, mais sur une telle période, on peut imaginer qu'il y a à la fois cet accident de chute ou d'incendie, enfin un accident, je dirais, qui en lui-même puisse être contrecarré, mais qu'il y ait en parallèle la perte de la ventilation, par exemple, ou la perte d'électricité, puisque on dit que l'électricité doit marcher en permanence parce qu'il faut faire marcher des pompes, par exemple, qui extraient l'eau qui peut passer dans les alvéoles et les galeries. S'il y a une panne d'électricité généralisée parce que, en particulier, avec les bouleversements climatiques qui ne sont absolument pas pris en compte sérieusement dans le dossier, par exemple. Il peut y avoir des tornades, il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir tout d'un coup un manque d'eau, justement, parce que les rivières sont à sec, etc. Tellement d'événements qui vont porter sur, d'une part, l'exploitation, mais aussi la construction, puisque, en parallèle, et ça, peu de gens en ont pris conscience, c'est que on ne fait pas un système dans lequel on construit le système et puis après on le fait fonctionner. On construit le système au fur et à mesure. C'est ce que j'ai expliqué dans la première phase. Il y a vraiment une ou deux galeries et quelques alvéoles. Et puis si après on continuera à construire au fur et à mesure, mais jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture du site, il y a en parallèle l'exploitation, les colis, la surface, etc., l'enfouissement des colis et tout, et la construction à côté. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est critiquable parce qu'il peut y avoir des accidents au niveau de la construction. Ça arrive tous les jours. Quand on creuse des tunnels, il y a des accidents. Et ça se fait à quelques mètres de la zone d'exploitation. Et ça, c'est un reproche qu'on peut faire à ce projet. C'est de vouloir faire les deux en même temps.
Oui, mais ce qui est aussi...
Et imaginer ça sur au moins 150 ans, c'est totalement invraisemblable. C'est pas crédible.
Et en plus, de ce que je comprends, cette phase industrielle pilote, où on va tester tous les mécanismes et tous les dispositifs, est une sorte de phase de validation, pour moi, telle que je la comprends du projet, et que donc forcément, on devrait attendre la validation, le retour d'expérience de ce test-là pour dire on continue ou on continue pas. Alors que là, moi, j'ai l'impression que de toute façon, tout ça est décidé et qu'en fait, si on continue la construction pendant, en fait, enfin, j'arrive pas à voir quand est-ce qu'il y a un moment où potentiellement une décision politique peut dire non, en fait, ce projet, il marche pas, en fait.
Alors, c'est prévu. C'est une autre question qu'il faut qu'on aborde une autre fois. C'est toute la discussion sur la phase industrielle pilote.
Ok. On fera un épisode que là-dessus.
Oui, je pense, parce que ça pose un problème majeur, cette histoire de phase industrielle pilote. Mais il faut en reprendre l'historique. Il faut voir où on en est.
Alors restons sur notre installation nucléaire de surface. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblaient importantes d'aborder ?
Pour moi, c'est lié à cette question de la salle de conduite centralisée, qui est répétée régulièrement dans le dossier, hein, c'est clair. c'est que toutes les opérations sont automatisées et suivies par écran. Et ça, je me dis, mais c'est se dire qu'on va faire ça pendant 150 ans et que ça marchera, c'est invraisemblable.
Ah ben oui, je pense qu'il suffirait d'aller voir les chaînes de montage chez Renault pour savoir que un système mécanique comme ça qui n'a pas de problème, ça n'existe pas en fait, concrètement, dans la réalité du monde. Ben écoute, merci Bernard. Déjà, merci d'avoir pris le temps de fouiller dans ces 12 000 pages et ces 41 dossiers pour voir qu'est-ce qui sortait de cette installation nucléaire de surface et qu'est-ce qu'on pouvait en dire. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack Ailes et Feel the Sound, le morceau s'appelle Volcano. A bientôt pour un nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard.